attitude réflexive sur l'intelligence à travers ces voies d'accès, de découverte. La ratio boni, on la découvre. Il faut la découvrir. La ratio entis, on la découvre. Et en comparant ces rationes, rationes entis, cette ratio entis, cette ratio unius, cette ratio aliquid, cette ratio veri, cette ratio boni, on voit que ces rationes sont convertibles. Elles sont convertibles en ce sens que ça veut dire que la compréhension intellectuelle, la compréhension intellectuelle de la ratio entis assume la conversion de ratio veri, ratio boni, ratio unius. C'est convertible. Et convertible, c'est-à-dire, ils ont même extension, même compréhension. Et dans la ratio entis est contenue la ratio boni. C'est ce qu'il y a d'ultime dans notre connaissance. C'est vraiment l'effort dernier. Aristote ne le donne pas, mais tout est préparé dans ce que dit Aristote pour qu'on puisse faire cette espèce de réflexion au terme de toute la recherche métaphysique, montrer qu'il y a une unité en métaphysique dans la ratio entis. Et alors, saint Thomas nous donne cette attitude réflexive et qu'il faut lire. Vous ne trouverez ça nulle part ailleurs. C'est une des grandes découvertes de Thomas d'Aquin, ça. Alors, c'est dans DNT essentiel, dans le De Veritate, questions disputées. Les questions disputées sont particulièrement intéressantes. C'est entre la théologie et la philosophie. C'est au fond une attitude critique. C'est une attitude critique et c'est un sommet. Je crois que comprendre les transcendentaux, c'est au point de vue métaphysique vraiment ce que notre intelligence peut faire de plus grand. Oui. Vous découvrez par l'expérience la ratio boni. C'est ce que nous avions essayé de faire hier, et j'y reviens. Parce que c'est pas commode, mais c'est très important. C'est très important de voir qu'est-ce que c'est que la ratio boni? La raison de bien. Qu'est-ce que c'est que le bien? Quand je dis ratio, je veux dire quelle est l'intelligibilité que nous avons du bien? Du bien en tant que bien. C'est la réduplication, la ratio. Le bien en tant que bien. Et le bien relativement à l'être. Le bien relativement à l'un. Le bien relativement à l'équide. Vous voyez, il y a une question, je dirais, dans un cours que nous faisons, par exemple, nous mettons comme quelque chose de très grand que saint Thomas a découvert. Vous découvrirez dans Albert le Grand, juste avant saint Thomas, quoi, la convertibilité de quelques transcendentaux. Et vous verrez la différence entre Albert le Grand, professeur de Thomas d'Aquin, et Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin ajoute des transcendentaux à Albert le Grand. Quels sont ces transcendentaux que saint Thomas ajoute à Albert le Grand ? Ça, c'est intéressant. Parce qu'alors là, on voit la fine pointe de Thomas d'Aquin par rapport à Albert le Grand. Et ça mériterait toute une thèse, parce que c'est quand même très important. C'est le ratio aliquid. C'est très curieux. Aliquid. Comment traduire aliquid ? Du latin en français, c'est l'autre, quelqu'un autre, c'est l'autre. L'autre comme autre, ce qui n'est pas moi. L'autre dans son être. Chacun d'entre vous, vous êtes autre que votre voisin. C'est sûr. Sans chapeau, vous êtes autre. Sans cheveux, vous êtes autre. Si vous perdez vos cheveux, vous restez vous, parce que c'est un petit ornement les cheveux, mais c'est très secondaire. Vous ressusciterez avec des cheveux glorieux. Et les moniales n'auront plus besoin de mettre sur la tête un voile. Le voile, c'est pour montrer qu'on offre ses cheveux à Dieu. C'est le signe. Parce que les cheveux, regardez tous les tableaux de princesses et d'altesses, c'est très très important. Et on voit que le peintre qui tient, est-ce que la tête soit bien ornée. Alors, on met le voile pour dire « Ma tête n'est ornée que pour Dieu. » Les cheveux, c'est une clôture. Le voile, c'est la clôture. Alors, l'homme n'en porte pas, il sera sa tête. Ça raser la tête, c'est dire, je m'en fiche de cette de mes cheveux qui poussent. Alors, surtout aujourd'hui où ils recommencent. Ça, on voit cette espèce de mode de reprendre des cheveux longs chez l'homme. C'est curieux, parce que ça signifie quelque chose, du reste. Ça veut dire quelque chose. Quand on va le regarder, aliquid. Aliquid. On est quelquefois aliquid par les cheveux. C'est vrai. Quand vous voyez aujourd'hui des hommes qui aiment particulièrement de se montrer aliquid, quelqu'un d'unique. Alors, c'est visible. Alors, vous voyez, au contraire, l'invisible, chez le moine, aliquid, chez le moine, c'est aliquid dans le regard de Dieu. Dans le regard de Dieu, aliquid, ce n'est pas vos cheveux. Aliquid, ce n'est pas votre manière de vous tenir. C'est votre âme qui a une tenue spirituelle invisible, une tenue spirituelle vers Dieu. Aliquid, c'est votre manière particulière d'être finalisé. Vous êtes aliquid. Vous voyez, aujourd'hui, on traduirait ça par personne. Vous avez votre personnalité. Et votre personnalité fait que vous êtes quelqu'un. On rencontre beaucoup d'individus qui ne sont pas quelqu'un, qui sont des individus. Et puis on rencontre de temps en temps quelqu'un aliquid. Et ça reste toute votre vie, je rencontrais. Pour rencontrer le pape aliquid. C'est pas en tant que pape, non, c'est lui. Il est aliquid. C'est très très curieux, hein, ce mot latin exprime quelque chose. Eh bien, parmi les transcendentaux, c'est celui que saint Thomas ajoute à Albert le Grand. Moi, ça m'a toujours inquiété, ça. Alors, qu'est-ce que saint Thomas à Albert le Grand veut ajouter dans sa vision métaphysique? La métaphysique d'Albert le Grand n'a pas du tout le caractère de la métaphysique chez saint Thomas, puisque saint Thomas n'a pas fait de métaphysique. Il n'a pas fait de métaphysique, mais il a fait ce regard sur les transcendentaux convertibles. C'est l'ouvrage métaphysique de Thomas d'Aquin extrêmement intéressant. Et il y aurait une thèse extrêmement intéressante à faire là-dessus pour montrer que ça nous montre comment Thomas d'Aquin est arrivé un regard métaphysique extrêmement pur. Et on le comparerait avec Albert le Grand pour voir la différence. Il y a aliquid. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça correspond à quoi? Ça, je me suis toujours demandé ça. Je crois, pour moi personnellement, c'est la découverte de l'acte. En métaphysique, on découvre deux principes, la substance et l'acte. La substance, c'est ce que signifie l'être, la cause formelle. Qu'est-ce que c'est que l'être? L'être, substantiellement, fondamentalement, c'est la substance. Et quand vous cherchez la finalité de l'être, vous découvrez l'acte. Et ça, je crois que c'est cela que Thomas d'Aquin a découvert grâce à Aristote et qu'il a découvert au-delà d'Albert le Grand. Et c'est ça qui lui donne le caractère propre de sa métaphysique. En vue de quoi? L'être. posez-vous la question, vous, intérieurement et vraiment, quelle est la finalité de l'être en tant qu'être ? La finalité de l'être en tant qu'être, c'est l'acte. Bon, Aristote a découvert ça, mais il n'a pas formulé en critique. Pour le formuler en critique, il fallait réfléchir sur la distinction entre l'acte et l'être, entre l'acte et la substance, et voir que ceci correspond à aliquid. On est, par l'acte, on est distinct des autres. Chacun d'entre nous, hein, dans notre être, nous sommes distincts du voisin. On est aliquid. Quelqu'un. Et le quelqu'un, c'est l'acte. Par où vous êtes distinct de tous les autres. Vous êtes unique au monde. C'est quand même pas mal. Vous êtes unique au monde. Si vous disparaissez, il y a aliquid qui disparaît. On a dans l'ordre de l'être quelque chose d'unique. On est en acte. Pour Dieu, hein. Alors, c'est pas pour Dieu, puisque je dis ça avant d'avoir découvert Dieu. Mais une fois que j'ai découvert Dieu, je dis en effet, le jugement de sagesse de Dieu sur moi, c'est aliquid. Je suis pour Dieu quelqu'un d'unique. Chacun d'entre nous. Et si les hommes avaient un regard suffisamment pénétrant sur la réalité, ils seraient en admiration devant cet aliquid de chacun. Vous voyez, si facilement on dit on est un nombre, un numéro, je ne sais pas trop combien, si je compte successivement, on est un numéro. Un numéro, ce n'est pas aliquid. C'est un numéro, parce que un numéro s'additionne avec l'autre. Je suis 885, c'est mon numéro. Dans l'ordre de Saint-Dominique, c'est mon numéro. C'est nécessaire là pour la lingerie. 885, uniquement. Il y en a un qui vient après, 86. Il y en a un, 84. On est enveloppé, mais pas de différence, un numéro. Et au fond, constamment, la carte de visite, on est un numéro. Aliquid, c'est plus un numéro. C'est unique. On est unique par notre existence, par notre acte. C'est quand même, ça prouve que saint Thomas, en découvrant le principe de finalité au niveau métaphysique, a compris que la découverte du principe de finalité au niveau métaphysique, ce pourquoi l'être existe. Il a saisi ce qu'il y avait d'ultime dans l'être, aliquid. Mais saint Thomas ne s'arrête pas aliquid. immeratio boni. Quelle différence y a-t-il entre aliquid et ratio boni? Alors là, vous voyez, je suis en critique. Hein. J'ai découvert la raison d'acte, j'ai découvert le principe de finalité en métaphysique, le principe de finalité, ce pourquoi l'être est. Quelle est la finalité de l'être? La finalité de l'être ne peut pas être en dehors de l'être. En dehors de l'être, il n'y a rien. Et pour des quantités de personnes, la finalité, c'est rien. Alors que c'est l'être dans ce qu'il est le plus lui-même. Ma finalité, c'est d'être moi-même dans ma fine pointe. Alors, c'est à la fois en dehors de moi et en moi. L'acte est energeia, entelecheia. L'acte est pris de côté. La finalité, elle se prend par celui qui me finalise et au-dedans de moi-même, qu'est-ce que c'est que d'être finalisé? Vous voyez, on revient toujours à ces deux expressions grecques. Je les donne en grec pour que vous puissiez les traduire dans votre langue. Ordinairement, elles ne sont pas traduites. Parce que nos langues sont plus commerciales que métaphysiques. Alors, donc, et de plus en plus, la langue tend à devenir commerciale. Alors, heureusement qu'il y a encore des poètes. Mais autrement, ce serait commercial. Et par le fait même, c'est très difficile de traduire les termes métaphysiques. Alors, on doit revenir au grec. Entelecheia. Aristote l'a inventé. En dans. Entelecheia, telos. Fin. Dans la fin, l'ayance. Entelecheia. Et entelecheios, un mot inventé par Aristote, il n'est pas chez Platon. Il n'est pas dans la langue ordinaire des poètes. Vous ne trouverez pas. C'est l'ayance dans la fin. L'ayance dans la fin, pour moi, il y a une image très curieuse. Quand vous avez un petit chat et que vous lui grattez la tête, il fait ron, 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 ron. Il fait ça admirablement. Ça, on dirait qu'il est né pour ça. Entelecheia. Voilà une image de Entelecheia. Le petit chat qui fait ron, ron. Alors, quand faites-vous ron, ron? Entelecheia. Il se replie sur lui, puis il est heureux. Ah, il est heureux. L'ayance dans la fin. L'ayance dans la fin. Étant dans sa fin, on se repose. Et une espèce de conscience du repos. Si vous voulez, la conscience du repos, pour nous c'est très difficile, parce que si vous avez trop conscience du repos, vous ne dormirez jamais. Il faut perdre la conscience du repos pour dormir. Mais si on a la conscience du repos, en disant « je veux bien dormir, conscience du repos ». Votre conscience vous empêche de vous reposer. Il faut perdre sa conscience pour dormir. Et c'est le plus difficile. Quand on est tendu, on a une conscience très forte et on ne dort pas. Comment se fait-il qu'il y a des personnes qui ne dorment plus? Mais elles sont fixées sur quelque chose qui les finalise et elles n'en sortent pas. Entele kaya. Le petit choc qui fait rond. J'aurais dû amener un chat ici, puis le gratter. Vous auriez tous vu Entele kaya. Alors une fois qu'on a vu ça, ah oui, oh, ça reste. Oh. Ce ronron dans la finalité. On est heureux. Vous voyez, quand les gens disent on est heureux, en pleine fête de famille, on se trouve un vieil oncle qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, qui revient d'Amérique. Entele kaya. La maison peut brûler. Entele kaya. C'est très très curieux. Hein. C'est quelque chose qu'il faut vivre. Entele kaya. Une fois qu'on l'a vécu, ah, on comprend qu'il y a entele kaya suprême, la contemplation. Je suis dans ma faim. Et j'ai conscience d'être dans ma faim. Alors il y a un danger, c'est de s'approprier la faim. Alors il n'y a plus de contemplation. Dans la contemplation, on est tout entier vers la faim et donné à la faim, on ne la possède pas. Vous voyez, c'est la fameuse distinction entre être et avoir. On voit très bien. Et c'est là, au sommet, qu'on la comprend le mieux, être et avoir. Vous voyez, quelqu'un est heureux d'être contemplatif. On lui demande, ça va bien? Oui. J'ai compris ce que c'était que la contemplation. D'ailleurs, on possède sa contemplation. Et on fait oraison le matin en possédant sa contemplation. Le couvent peut brûler, je suis dans la faim. Je prends cet exemple parce que c'est arrivé à Montmorin, ça. Deux moines, je ne cite pas les noms, deux moines. Dans deux coups. L'un était infirme. L'heure de l'oraison, le voisin, fenêtre fermée, tout, pour que l'entele kaya soit plus parfait. Et puis la cellule de son voisin, infirme, brûlait. Il récitait son office. C'était l'heure pour rester l'office. Le feu n'avait pas le droit de brûler son voisin à l'heure de l'office. Il restait entele kaya. Il faut découvrir ça dans notre expérience et voir combien c'est profond et combien ça touche quelque chose d'extrêmement profond, ça. Vous voyez, l'avoir dans la faim. Or, l'avoir dans la faim, ce n'est pas ma béatitude. C'est mon avoir. Mais mon avoir, il est pauvre. Comparativement à la vision de Dieu, comparativement à la contemplation Alors, entelekeia, la voir. Energeia, l'acte. Qui me finalise. L'acte qui est toujours au-delà de moi. Parce que je ne suis pas acte pur. L'acte pur, c'est Dieu. Et j'atteins Dieu, acte pur, par l'acte. Energeia. Vous voyez, c'est une trouvaille merveilleuse, Aristote. Alors qu'on traduit ça en latin. Parce que le latin a tout de suite eu une extension beaucoup plus grande que le grec. Le grec restait une langue élégante. Il faut voir comme les orthodoxes aiment le grec. Tout leur office est en grec. Au moins pour une partie des orthodoxes. En latin, ça se traduit acte premier, acte second. Actus primus, actus secundus, c'est ce que la scolastique a gardé, ça. Et donc, on ne voit plus la distinction entre entelekeia et energeia. C'est l'acte. Et le français vient du latin. Acte premier, acte second. On n'a pas traduit entelekeia. On n'a pas traduit energeia. On a dit acte premier, acte second. C'est ça que la scolastique a gardé. Alors, découvrir l'origine de acte premier, acte second, il faut revenir au grec. Et il faut comprendre que c'est Aristote, le premier, qui a découvert ça à propos de la contemplation. La contemplation est un acte intellectuel, un acte de sagesse, de l'intelligence, non pas rationnelle, mais de l'intelligence unie à l'amour. Une intelligence de sagesse. Et l'intelligence de sagesse, elle est toujours unie à l'amour. Les deux. L'amour permet d'aller le plus loin possible dans la connaissance. Donc l'amour est présent dans energeia, la contemplation. Mais la contemplation, elle est la contemplation de quelqu'un. C'est la contemplation de quelqu'un qui finalise ma contemplation, qui donne à ma contemplation sa signification. Je peux contempler le petit chat qui fait ronron. Je peux essayer de contempler Dieu. Celui que je contemple est plus que ma contemplation. Il en est la source. C'est grâce à lui que je peux contempler. Alors vous voyez tout de suite la différence entre entelekeia et energeia. Alors, au point de vue métaphysique, on n'a pas encore découvert Dieu. Mais on a découvert que la contemplation de l'être premier ou la contemplation, puisque je n'ai pas encore posé de l'ami, me conduit à aller plus loin. La contemplation de mon ami, quand j'aime mon ami, je le contemple, je l'aime, et j'aime à le regarder, à le connaître, à vivre de lui. Mon ami, je ne possède jamais, je le respecte. Votre ami, vous pouvez avoir un grand désir de le posséder. C'est le meilleur des serviteurs. Parce qu'il me connaît parfaitement, il sait tout ça, il fait ça parfaitement. C'est le meilleur de mes serviteurs, et donc je le possède. Tu seras mon serviteur. Alors à ce moment-là, il n'est plus mon ami. Il est mon ami si je le respecte comme étant celui qui m'attire, celui qui me finalise. Tandis que dès que je le possède, il ne me finalise plus. C'est moi qui me finalise en le possédant. Vous voyez comme c'est important ça. C'est capital dans l'expérience de l'amitié. N'oublions pas que instinctivement, nous voulons posséder notre ami. Instinctivement, la passion du concupiscible est très forte. Elle veut posséder le bien. Et mon ami, c'est mon bien. Alors, je veux le posséder. Et à ce moment-là, vous le détruisez. Il ne vous finalise plus. Puisque c'est vous-même qui vous finalisez en possédant votre ami, en le faisant votre serviteur. Il y a une purification très très profonde de l'intelligence pour respecter ceux qui me finalisent, celui qui me finalise, c'est toujours la personne humaine. Et la personne humaine, comme personne, et très facilement je considère la personne humaine comme, pour moi, source de plaisir, source de joie, et c'est moi que je regarde. Et alors, à ce moment-là, à la place de le considérer comme ami, je le considère comme mon avoir. Vous savez, il y a la fable de La Fontaine qui est admirable dessus. C'est le chien, le loup. Et qu'est-ce que tu as à ton cou ? Un collier. Et le loup, il n'en a pas. Un collier, parce que j'appartiens à un maître. Ah, j'ai d'immenses avantages, c'est qu'on me sert tous les jours ma pitance. J'ai pas besoin de tuer un canard, il m'est donné. Mais ce n'est plus l'ami, c'est le serviteur. Le serviteur qu'on nourrit. Dans notre vie, hein, c'est constamment comme ça. Nous avons des amis et nous les considérons comme nos serviteurs. l'avoir. Ce n'est plus l'amour. On passe de l'un à l'autre. Et c'est bon de regarder cela au point de vue métaphysique, de voir la différence entre le fait de posséder quelqu'un, je l'amène à moi, le fait d'être finalisé par quelqu'un, l'ami est ami tant qu'il me finalise. Le jour où il ne me finalise plus, il n'est plus mon ami, il devient mon serviteur. Alors, vous arrivez à saisir là la différence entre aliquid et bonum. Aliquid, c'est ce qui me finalise. Mais pour que aliquid me finalise toujours, continue de me finaliser, il faut qu'il soit mon bien. Il faut que je sois tout entier tourné vers lui. C'est ça la ratio boni, c'est d'être attiré par une personne aliquid et une personne qui est mon bien. Et la personne qui est mon bien, qu'est-ce que ça représente au point de vue de l'être? Ça représente que cette personne est capable de me finaliser, de m'attirer, de réaliser en moi, au plus intime de moi-même, de réaliser l'amour. La fin, c'est le bien qui suscite en moi un amour. Et l'amour, c'est la sortie de moi vers l'autre. C'est l'autre qui me permet cette sortie de moi. Alors voyez, ce lien entre aliquid et bonum, et ceci pour essayer de comprendre ce que saint Thomas nous dit dans le De Veritate, question première, article premier. Ça, je sais qu'on en a donné une traduction pour ceux qui ont de la peine à lire le latin. Il y a une traduction. Si elle est perdue, parce que, hélas, les choses se perdent, si elle est perdue, que vous n'avez pas la traduction, demandez à un frère qui connaît bien le latin, ou à une sœur, parce que quelquefois les sœurs connaissent mieux le latin que les frères, de donner la traduction de cette question-là. C'est une question qu'il faut que tous aient lu ça. Parce que c'est la connaissance de saint Thomas par rapport à la métaphysique. Saint Thomas n'a pas écrit une métaphysique, mais il a écrit De Veritate, question 1, article 1. Alors, il faut savoir le mieux. Il faut l'avoir lu. Et quelqu'un qui critique saint Thomas, vous lui demandez, est-ce que tu as lu dans le De Veritate? Ah non? Ah, alors, c'est pas étonnant que tu n'as encore rien compris dans saint Thomas. C'est vrai, c'est la fine pointe de Thomas d'Aquin. C'est là où on découvre son génie par rapport à Albert le Grand. qu'on voit qu'il a découvert la causalité finale. La causalité finale, c'est découvrir l'autre en tant qu'une matière. C'est découvrir l'autre en tant qu'il a sur moi cette emprise de faire que je l'aime. Et assister à cette naissance de l'amour, ça c'est le bien. Le bien, c'est ce qui est capable de m'attirer. Et ça ne veut pas dire que le bien est relatif, non. Celui qui est capable de m'attirer est indépendant de moi. C'est moi qui suis dépendant de lui. Entelekeia et Nergeia. Vous voyez, le bien est source d'amour. Le bien m'attire. Et en tant qu'il m'attire, il crée en moi l'amour. Et l'amour, c'est d'être tourné vers le bien. C'est de faire que ce qu'il y a dans ma volonté de plus secret, de plus profond, est attiré et séduit. Mais il ne faut pas dire séduit, parce que c'est la séduction, c'est plus le beau. Tandis que le bien, c'est l'attraction. Il est attiré. Et ce n'est pas la même chose, séduction et attraction. La séduction reste beaucoup plus intellectuelle. C'est le beau. Tandis que le bien m'attire. Et c'est sûr qu'au point de vue pratique, séduction et attraction sont quelquefois très proches. Et la séduction est quelquefois le moyen, la route vers l'attraction. Ça, c'est sûr. La séduction a l'avantage de me réveiller. Je me réveille quand je suis séduit. Et la séduction peut, pas toujours, peut me conduire à l'attraction, au bien. Mais la séduction est capable aussi de m'arrêter. Alors c'est l'intelligence qui s'empare du beau. On est séduit. On est tous capable d'être séduit. Si on n'a jamais été séduit dans sa vie, c'est rare. Il faut étudier ce que c'est que la séduction. Quand on a la différence entre séduction et attraction, l'attraction du bien, la séduction du beau. Et le beau n'est pas un transcendantal. Je ne crois pas. Certains mettent le beau comme un transcendantal. Et des gens très bien ont fait ça. Von Balthasar, qui était un véritable apôtre. Von Balthasar considérait le beau comme un transcendantal. Et en Belgique, l'université de Louvain a une tradition de considérer le beau comme un transcendantal. Tandis que si je regarde attentivement Thomas d'Aquin, je vois que le beau n'est pas un transcendantal. Il est la lisière du transcendantal, il est une notion très importante, mais qui n'est pas transcendantale. Je crains que quand on fait le beau transcendantal, le beau est atteint dans une séduction. Donc il y a le mode humain. Le beau demande d'être purifié pour l'attraction. C'est un moment très important, la séduction. Quelqu'un qui n'a jamais subi de séduction, c'est un pauvre type. Il y a quelque chose de l'intelligence qui n'a pas saisi. C'est l'amour et l'intelligence, mais l'intelligence en dernier. L'attraction, c'est l'amour et l'intelligence, et c'est l'amour en dernier. Vous voyez, il y a une espèce de relation commune entre amour et intelligence, mais on se termine sur l'intelligence ou on termine sur l'amour. C'est pour ça que c'est très proche. Vous voyez donc comment l'amitié me conduit à un dépassement pour découvrir la finalité de l'ami. En découvrant la finalité de l'ami, je me pose la question, est-ce que cet ami est le bien suprême pour moi? Si cet ami n'est pas le bien suprême pour moi, il n'est pas ma fin d'une façon absolue. Et l'ami ne peut pas être une fin absolue parce que il peut mourir et moi aussi par rapport à lui. Donc la mort montre les limites de l'amitié et m'oblige de poser quelqu'un à liquide, quelqu'un d'autre, qui, lui, n'est pas dans le temps et ne peut pas mourir.